Alors, je vais vous partager la parole ce matin, humblement, c'est-à-dire que, comme bien souvent, quand je prépare aussi les messages, je prie pour recevoir ce sur quoi le Seigneur souhaite, quel sujet il souhaite aborder. Et je le fais, j'essaye en tout cas de le faire aussi en pensant à moi. Donc voilà, parce que je suis aussi concerné par ce que je vais partager ce matin, bien évidemment. Le titre, c'est « La loi, la grâce et l'amour ». Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est ce qui nous rassemble, eh bien, c'est la Bible et tout particulièrement Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est lui qui nous rassemble. Être chrétien, c'est vraisemblablement une identité. Et on n'est pas seul dans notre communauté à suivre Jésus. Et heureusement, on peut regarder les différentes églises sur Angers qui prennent un temps pour faire ce culte, rendre ce culte à Jésus. Et donc, que ce soit sur Angers ou même plus loin encore. Et il y a plusieurs dénominations d'églises. Il y a plusieurs églises. Et cette appartenance à Jésus, elle doit nous rassembler, je disais. Et aux yeux du monde, il est possible que nous ayons et que nous soyons identifiés comme une seule entité, par exemple, bon, les protestants. Si on parle avec des personnes, moi j'avais des amis le week-end dernier à la maison, puis ils m'ont dit, mais finalement les protestants c'est quoi? C'est voilà, comme s'il y avait une seule entité, les protestants, voilà, les catholiques. Et, voilà. Et que ce soit d'ailleurs quand on parle de catholiques, de musulmans, on peut penser qu'il y a généralement peut-être, allez, deux catégories. Il y a peut-être ceux qui sont un peu plus extrémistes ou qui sont fondamentalistes, ou voilà, on peut employer des mots comme ça. Et puis il y a les autres qui sont des gens plus modérés. Voilà. Donc souvent, en discutant en tout cas avec mes amis, c'est ce que j'entendais. Et pour les chrétiens, on peut penser vraisemblablement que, qu'il en est de même, qu'il y a les traditionalistes et qu'il y a les modérés, il y a voilà une façon très très simple de voir les chrétiens ou ceux qui suivent une foi. Si on y regarde de plus près, on peut penser que les chrétiens, ben, ils suivent la même ligne directrice, ils suivent le même enseignement, c'est-à-dire un enseignement qui est basé sur la parole, sur la Bible. Cet enseignement qui est basé sur la Bible, il doit normalement en résulter que ceux qui se basent sur la Bible, sur la parole, et qui sont enseignés par elle, eh bien, ils doivent être construits de la même façon. Donc c'est-à-dire que même si on met de côté les différentes dénominations, si on regarde uniquement que les chrétiens sont enseignés sur la base de la Bible, ils sont construits, ils devraient être construits, sur le même schéma. On pourrait dire, pour simplifier, des chrétiens, mais une seule pensée, qui passe par la parole et par Jésus. Des chrétiens fabriqués dans le même moule, celui de Jésus, à qui on doit ressembler, vous êtes d'accord avec moi? Et si c'est vraiment le cas, si on était tous, j'allais dire formatés, c'est pas forcément le bon mot, mais construits selon le modèle de Jésus, ben si c'était vraiment le cas, ça serait vraiment, une chance formidable pour nous qui nous reconnaissons en Jésus. Bon, il faut quand même reconnaître que l'unité de pensée, on ne la retrouve pas forcément entre nous chrétiens et dans les chrétiens, entre nous protestants. Eh bien, il y a parfois des divisions. On ne pense pas toujours de la même façon. Et pourtant, on suit la Bible, on suit Jésus. OK? Si on regarde ici, dans notre Église, sur différents thèmes, qu'ils soient des thèmes bibliques ou des thèmes de la vie courante, ben, il est fort possible qu'il y ait autant d'avis divergents que de personnes assises dans cette salle aujourd'hui. Peut y avoir des ressemblances dans nos pensées, mais il y a aussi beaucoup de différences. Je vais prendre un thème un petit peu actuel en ce moment, mais on ne va surtout pas débattre dessus. Si je prends le thème de la retraite, et dans ce thème, si je prends uniquement l'âge à laquelle les Français peuvent prendre la retraite, ben il est fort probable que si on faisait un petit sondage comme ça pour rigoler, mais on ne va pas le faire, non, vaut mieux. Ben, on peut supposer qu'il y aurait un petit peu de division en deux, voire trois groupes, en tout cas plusieurs groupes, avec des idées différentes, et chacun avec des arguments aussi forts les uns que les autres. Et dans ces deux ou trois groupes, eh bien, il y aura aussi des divergences de points de vue et d'arguments et de bien fondés de leurs pensées. Et chacun sera sûr de soi. Alors moi, je me pose la question, et je vous la pose, qu'en est-il de l'acceptation de l'autre dans sa différence? Et quelle est la grandeur de notre amour pour notre prochain pour accepter qu'il soit différent et qu'il pense différemment? Tout cela pour dire qu'il me semble que nous sommes encore très impactés par notre vieille nature. Il y en a qui commencent à avoir des poils qui se hérissent. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il me semble aussi que nous sommes bien souvent enclins à juger l'autre en fonction de nos pensées et de nos représentations, qui sont forcément les meilleures, puisque c'est les nôtres. On peut penser par exemple à Pierre. On va quand même se baser un peu sur la parole, bien sûr. Dans Acte 10, Pierre qui, sur ce sujet, lui n'envisageait pas de se rendre chez un non-juif. Ce n'était pas possible. C'était vraiment quelque chose. Et au verset 28, merci de l'avoir affiché, il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. Et après, il leur demande, bon, pourquoi vous m'avez fait venir? Et voilà, connaissez l'histoire. Alors, on peut se dire effectivement cet épisode de la parole et de la loi, puisqu'effectivement, Pierre fait état de la loi en disant, c'est pas possible pour moi, en tant que juif, d'aller chez un non-juif. Il aurait pu rester sur la loi, qui a son importance. Et on peut se dire, bah oui, dans ces cas-là, dans cet épisode-là, non, bah, ça ne nous concerne plus. Donc, ok. Pierre, ça l'a fait évoluer, tant mieux, mais moi, ça ne me concerne pas. Hein. On peut aussi, vous pouvez aussi me répondre que ça n'a rien à voir. Nous sommes devenus de nouvelles personnes, ok? Et depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes de nouvelles personnes, ok? Amen. On est devenus des nouvelles personnes grâce à Jésus. On l'a redit tout à l'heure en partageant le pain et le vin, grâce à lui, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Amen. Alors on peut citer aussi, hein, bien sûr, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je me permets d'insister sur la première partie, la première phrase. Si quelqu'un est en Christ, il y a bien une condition. Être en Christ. Et si on est et on demeure en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il faut demeurer en Christ. Et si nous demeurons en Christ complètement et entièrement, eh bien, on voit Christ qui nous transforme. Alors, une nouvelle question que je me pose à moi, mais je vous invite à vous la poser, bien évidemment. Est-ce que je vis cela actuellement? Est-ce que je suis vraiment et je demeure vraiment en Christ? On peut effectivement penser que, puisque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous nous sommes fait baptiser, nous sommes transformés, toutes choses anciennes sont passées, ok. Mais si c'était simplement le cas, si on ne regardait pas à ce « si quelqu'un est en Christ », eh bien, ça voudrait dire éventuellement que le baptême est une finalité, une fin en soi, et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. J'ai accepté Jésus dans ma vie, point barre, c'est bon, je me suis fait baptiser, amen. Ben, vous conviendrez, je pense, que notre acceptation de Jésus dans notre vie, et puis à travers notre baptême, eh bien, c'est qu'une porte d'entrée. On est OK là-dessus? Ouais. Une porte d'entrée vers quoi? Vers le chemin qui nous mène à Dieu. Et ce chemin que nous devons emprunter, c'est Jésus. Jean 14, au verset 6. C'est Jésus qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Ok, donc le chemin c'est Jésus. C'est bien dans la parole, tout est expliqué, tout est dit. Alors, ça veut dire que nous devons apprendre à ressembler à Jésus. On peut voir dans Jean 15, au verset 5, j'aime bien ce verset parce qu'il nous rappelle l'importance de demeurer en Christ. « Je suis le cep, nous dit Jésus, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et attention, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On peut toujours essayer de faire les choses par soi-même et se dire « mais je le fais pour le Seigneur Jésus ». On peut être sincère dans notre cœur. Mais est-ce que au départ, chaque jour qui passe, on recherche la face du Seigneur? Est-ce qu'on cherche à le suivre? Est-ce qu'on l'invite chez nous chaque jour pour qu'il demeure en nous? Afin que ce que l'on puisse faire en son nom soit vraiment ancré dans la parole, soit vraiment conduit par lui, et non pas conduit parce qu'on pense qu'on le devrait faire, ou parce qu'il est habituel de faire telle ou telle chose. Mais si on le fait au nom de Jésus, parce qu'il nous le demande, c'est toute la différence. Alors, pour reprendre un peu le déroulé du message, je disais donc que nous sommes bien différents les uns des autres, de par notre vie, notre conception de la vie. Mais on l'a vu aussi, on a un point commun, c'est Jésus, c'est Christ. Alors de même que nos frères et sœurs dans les autres églises, frères et sœurs chrétiens, surrangés partout ailleurs, ils ont ce même point commun, Jésus. Alors regardons à Jésus et conformons-nous à ce qu'il nous enseigne. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne, entre autres, en Jean 13, au verset 34 ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Tout un programme. Tout un programme. S'il l'a mis en tant que commandement nouveau, c'est bien évidemment, quand on a besoin de le dire, c'est que ce n'est pas naturel chez nous. Sinon, il n'y aura pas besoin de le dire, ce serait une évidence. Jésus, pourquoi tu nous dis ça ? Nous, on s'aime, on est entre frères et sœurs là, on s'aime tous, on est bien ensemble. D'ailleurs, ça se voit, quand on démarre le culte, on démarre 5-10 minutes après, parce qu'on se cause, on a plaisir de se voir, on se demande des nouvelles des uns des autres, on prie les uns pour les autres. Qu'en est-il par rapport à ceux qui sont à l'extérieur, et même dans l'Église ? Est-ce qu'on apprécie tout le monde ? Est-ce qu'on aime tout le monde ? Et puis même quand je dis ça, on peut se sentir pas si mal que ça. On peut se sentir en bonne voie sur le chemin avec Jésus. On pourrait même être tenté de s'auto-justifier en disant que bon, je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas commis de faute importante, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas convoité les biens d'autrui, etc. Je ne suis pas si mal que ça quand même, bon, voilà. Donc ça le fait quand même, je n'ai pas besoin de pousser le bouchon plus loin. Je suis déjà pas trop mal quand même, ça me suffit. On n'a pas un petit peu ces pensées qui nous traversent un peu la tête ? Ah, c'est pas aussi flagrant que ça, mais quand même. On peut être tenté de se justifier, effectivement. Et je me souviens d'avoir accompagné une personne dans ma famille qui était en fin de vie. Et près de son lit d'hôpital, après avoir souvent parlé de Jésus avec elle, je lui dis qu'il serait peut-être temps de se tourner vers Jésus, de lui demander pardon pour tout ce qu'elle a fait et qui n'était pas la gloire de Jésus. Et c'est venu, mais progressivement dans la conversation, pas d'une façon aussi brutale bien sûr, mais doucement dans la conversation, dans les échanges que nous avions. Et cette personne qui se disait, comme certains, chrétienne, mais non pratiquante, parce que voilà, c'était comme ça, mais qui pour elle, Jésus existait, Dieu existe, enfin voilà, qui avait une certaine conception, j'allais dire. Cette personne a été un petit peu choquée, en tout cas étonnée par mes propos, en répondant « Mais moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai toujours fait le bien autour de moi. » Donc je lui ai dit « Écoute, tant mieux, c'est bien, mais continue à y réfléchir et que le Seigneur, et par son Saint-Esprit, te parle et que tu puisses avoir un échange, une relation, un dialogue avec. » Mais cette réaction, bien normale, j'allais dire, de dire « Mais je ne suis pas si mal que ça, moi j'ai fait le bien autour de moi, bon, je ne suis pas parfait, mais voilà. » On s'auto-justifie, on ne voit pas forcément le mal que l'on peut faire. À se demander d'ailleurs si ceux qui ont commis par le passé des faits plus graves ne sont pas enclins à demander plus facilement pardon aux autres. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de se pardonner soi-même. Ça, c'est tout un travail. Alors peut-être que nous réagissons comme dans cette parabole du jeune homme riche qui disait à Jésus, moi j'ai suivi toutes les recommandations de la loi, voilà, vraiment, j'ai bien suivi tout ça, vous voyez, vous connaissez ce passage, mais Jésus il lui dit de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. Alors ça peut étonner un petit peu ce passage-là, se dire, bah, tiens, c'est curieux, pourquoi ? Mais il me semble que Jésus il nous indique que nous devons apprendre à ne servir qu'un seul maître et que nous avons bien souvent, dans notre vie, d'autres maîtres qui nous empêchent de nous consacrer complètement à Jésus. Et c'est ce qu'il disait au jeune homme riche. Ce n'était pas parce qu'il était contre les riches qu'il fallait vivre pauvre, non. C'est simplement que, vraisemblablement, il avait vu dans son cœur que c'était l'argent qui primait. C'était son Dieu. Alors nous ne sommes plus sous la loi, hein, heureusement, car il est aussi écrit que c'est impossible à tout homme de suivre parfaitement la loi. Nous sommes sous la grâce et nous avons été sauvés grâce au sacrifice de Jésus, qui a porté nos fautes, nos péchés, afin que nous soyons libres. Et bien maintenant, il y a encore un chemin à faire. Il nous faut maintenant nous affranchir de nos anciens dieux, nos anciennes vies, pour pouvoir suivre le Christ. Bon, je m'explique un peu, parce que dit comme ça, on peut se dire, bah non, mais bon, je suis le Seigneur, tout va bien, je suis sur le chemin, ça va, je traîne quelques boulets, mais je me débrouille, j'ai l'habitude d'avoir des boulets à mes pieds, j'avance comme ça, et puis ça le fait. On a tous vécu, bon, selon chacun, plus ou moins longtemps, notre vie dans le monde, avant de rencontrer le Seigneur, Jésus. Et pendant cette vie, nous avons suivi vraisemblablement de faux dieux. Nous avons aussi reçu de mauvais héritages. Voici le savoir. Et on n'en a pas toujours conscience, d'ailleurs, de ces mauvais héritages. Alors, par rapport à ces faux dieux et ces héritages aussi, il peut y avoir, j'en cite quelques-uns, mais il y en a tellement, l'argent, l'orgueil, un complexe d'infériorité ou de supériorité, le jugement facile, la violence, la colère, l'impatience, il y en a plein d'autres. Il y a des liens. Ben, il nous faut renoncer à ces héritages du monde et couper les mauvais liens qui sont sur nous et pour nous libérer de toute entrave qui nous empêche de suivre le chemin de Christ. En tout cas, ça nous empêche de le suivre complètement. Ça nous freine, ça nous ralentit. Je disais tout à l'heure d'avoir des boulets aux pieds. Imaginez un petit peu quand on mettait des chaînes avec un boulet aux pieds des personnes qui étaient prisonniers. On ne pouvait pas courir avec, hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. On marche moins vite. Alors, pour que je me fasse bien comprendre aussi, nous ne pouvons pas avancer simplement en nous basant sur nos bonnes œuvres, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, ou par notre bonne volonté. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. Il y a quelque temps, j'avais apporté la parole ici en indiquant qu'il fallait faire le ménage chez nous. J'avais illustré ça en disant « Seigneur, et viens, prends toute la place chez moi. Seigneur, plus de toi. » On l'a dans nos chants parfois et dans nos prières. « Seigneur, plus de toi, viens, remplis-moi. » Et de dire... Seigneur, de nous dire parfois par le Saint-Esprit, je veux bien, je suis prêt, mais il n'y a pas de place. Je fais comment ? Il y a trop de choses à l'intérieur pour que je puisse m'y installer complètement. Mais on n'en a pas toujours conscience, vu qu'on vit avec ça tous les jours, qu'on s'est construit avec tout un tas de choses. Alors on peut formuler cette prière que je vous avais donnée à l'époque. Seigneur, aide-moi à faire le ménage chez moi, dans mon cœur, dans mon être. Montre-moi ce qui n'est pas à ta gloire et aide-moi à m'en séparer. Aide-moi de devenir libre pour te recevoir complètement en moi. C'est vrai que de faire le ménage chez soi, c'est... On ne se rend pas toujours bien compte de ce qui nous entrave, de ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'avancer. Mais on peut faire cette prière, effectivement. Seigneur, moi, je ne sais pas ce qui m'empêche d'avancer. Moi, souvent, je disais, mais j'avance avec le Seigneur, mais j'ai l'impression d'être un escargot, moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avance tout doucement. Donc certains me disaient, oui, mais au moins tu avances. Oui, c'est déjà bien. Mais j'avançais comme un escargot. J'ai dit, j'en ai marre d'être comme ça, Seigneur, montre-moi. Montre-moi qu'est-ce qui, dans mon caractère, ne va pas. Moi, je prenais ombrage rapidement parce que j'avais des liens qui faisaient que, comme une personne abandonnée, alors que j'avais des parents, hein, qui, mon père et ma mère ne m'avaient pas abandonné, mais j'avais ce sentiment d'abandon, comme si j'étais transparent, j'existais pas. Je dis, mais pourquoi je suis comme ça, Seigneur? Et puis, j'étais facilement blessé. Je dis, c'est quand même pas normal, quand même. Il y a pour des choses simples, que vraiment ça vienne me toucher, ça venait, c'était comme un coup de poignard que je recevais. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Alors montre-moi ce qui ne va pas chez moi. Déjà, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Montre-moi, éclaire-moi. Et il l'a fait. C'est ça qui est bien, c'est que quand on lui demande, eh bien, il nous répond. Il nous aide à voir ce qu'il y a chez nous, ce qui parfois est caché. Et qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, c'était le cas pour moi, dans ma vie, dans ma construction, chez mes parents, dans leur environnement, de ce qu'ils avaient vécu au moment de ma naissance et un petit peu avant, les traumatismes qu'ils ont vécus ont rejailli sur moi. Et ça, je ne le savais pas. Mais je l'ai découvert. Je dis merci Seigneur parce qu'il m'a montré. Je ne rentre pas dans les détails, mais. Il nous montre ce qui ne va pas. Et si vous demandez au Seigneur, mais montre-moi, comme on disait tout à l'heure, en prenant le pain et le vin, de faire un peu un état des lieux, dire Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, ok, on l'a dit tout à l'heure, mais Seigneur, montre-moi ce qu'il y a encore à corriger. Moi, je veux mettre tout devant toi. Seigneur, je dépose tout à tes pieds, c'est ça aussi. Je dépose tout ce que je suis. Mais aide-moi à me reconstruire. Aide-moi à me libérer de ce qui m'empêche d'avancer pour que je puisse vivre pleinement avec toi. Alors on peut ajouter à ce que nous entendons régulièrement dans ces temps de culte, apprenons à aimer comme Jésus aime. Et apprenons à voir comme Jésus voit. Moi, c'est une prière que je fais régulièrement, depuis longtemps, parce que j'ai envie, je ne veux pas rester comme je suis. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, si vous vous êtes satisfait de votre condition, de ce que vous vivez, avec le Seigneur, j'entends. Mais moi, j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de voir comme Jésus voit, j'ai envie d'apprendre à aimer comme Jésus aime. Et je ne sais pas vraiment comment faire, mais je lui demande de m'aider à le faire. Parce que j'ai des barrières, il y a des choses qui me gênent dans ma vie, qui m'empêchent d'avancer, moi aussi, bien évidemment. Alors on peut ajouter aussi cette prière toute simple, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes et à voir comme tu vois. Transforme mon cœur afin que je puisse vivre ça avec toi. Alors cette transformation que l'on peut souhaiter et demander, c'est une transformation de cœur et de vie pour nous approcher de Jésus chaque jour davantage. Avec Colossiens 3, versets 1 et 2, qui d'ailleurs c'est l'affiche qui est derrière, elle est grande, c'est bien, on la voit bien. Le but de votre vie est en haut, c'est le thème de cette année. Je me permets de le lire à nouveau avec vous. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, jusque-là, ok, vous avez accepté Jésus dans votre vie? Ouais? Dites oui, vous avez accepté Jésus dans votre vie? Ouais? Si donc vous êtes ressuscité, ouais ça va, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Il y a vraiment tout un programme là. S'occuper de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre. pour s'occuper des choses, ben, faut faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer. Ok ? On ne peut pas tout faire. Je me souviens du pasteur Timothée Mamba de l'église des Rachetés, qui avait apporté la parole en disant que tout est possible. On peut faire tout un tas de choses, tout est possible, mais est-ce que tout est utile ? Entre parenthèses, est-ce que tout est utile pour vivre avec Christ, pour vivre avec Jésus ? On peut faire plein de choses, on peut avoir des hobbies, on peut avoir tout un tas de loisirs, et c'est certainement très bien, c'est pas un souci, c'est possible. Est-ce que c'est utile ? Si à travers de mes loisirs, je témoigne et je répands la lumière de Christ, amen. Ouais, pas de souci. Si je le fais que pour me faire plaisir, c'est possible. Comment est-ce qu'on utilise notre temps ? Le temps, il file vite. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. J'entendais mes parents qui disaient « oh, les journées passent tellement vite et puis les semaines elles filent !» Moi je me disais, mais quand j'étais gamin, je me dis « mais non, les journées sont longues, elles sont toujours 24 heures, on attend de faire plein de trucs, on voit les copains, je fais de la mobilette, tout va bien quoi, non, ça file pas aussi vite que ça. D'ailleurs j'ai même pas encore mes 18 ans, tout ça, je me disais « non, ça va pas vite !» Quand on est jeune, on a l'impression que ça va pas vite comme ça. Puis on a toute la vie devant nous. Pouah, tranquille. Pouah, je suis pas rendu peinard. Donc, et puis d'un seul coup, je me retourne 60 ans. Paf. Il s'est passé 2-3 bricoles entre quand même. Hein. Mais alors, ça passe. Hein. Je sais pas pour vous, hein, mais ça passe. Hein. Alors bon. Plus tu vieillis, plus ça passe vite, qui dit mon frère. Oui. C'est marrant comme voilà ces choses. Donc bon, il me reste encore un peu de temps à vivre et je regarde dans le rétro et je me dis bon, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 60 ans. Et puis je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de temps. Ne serait-ce que déjà pour me décider à suivre Jésus, à me faire baptiser, entre les premiers moments où on m'a parlé de Jésus, où je suis allé à l'église à des temps d'évangélisation, et le moment où j'ai décidé de passer par les eaux du baptême, il s'est quand même passé 7 ans. Oui, quand même, hein, ça fait, ouais. Non, d'un seul coup, c'est sorti tout seul. Ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il n'est pas rapide, il parlait d'escargot tout à l'heure. Dis donc, hein. Alors vous, je sais pas, mais peut-être que vous allez plus vite, et tant mieux, condition que vous alliez plus vite avec le Seigneur. Donc j'ai mis du temps. Je continue à regarder dans le rétro, et de voir tout le temps que j'ai pu perdre. Je le rajoute parce qu'on a encore 5 minutes, mais en parlant de faux dieux, le travail, c'est la santé. Mais, vous connaissez la chanson pour les plus anciens, mais à condition de ne pas en abuser. J'exagère un peu en disant ça, mais j'étais investi dans mon boulot. J'aimais bien ce que je faisais. Et puis il y avait plein de trucs à faire, puis il y avait plein d'idées qui se bousculaient, il y avait des nouveaux services à monter, à faire fonctionner, tout ça, c'était génial. Et c'était tellement génial qu'on est passé aux 35 heures. J'y vais, comment je vais faire ? Et rapidement, c'était pas 35, c'était 50, 60, 70 heures par semaine. Et puis, comme j'aimais bien mon travail, qui passait parfois même très souvent, de plus en plus souvent avant le Seigneur, parce que parfois j'étais tellement fatigué ou que j'avais pas fini mon boulot que je me relevais la nuit pour pouvoir finir des dossiers, et le dimanche matin je disais je peux pas, je continue à bosser plutôt que de venir au culte partager ce temps avec notre Seigneur. Et voilà, donc vous voyez bien le schéma. mon travail était important, et c'est important d'être rigoureux dans son travail, d'être investi dans son travail. Il faut aussi faire la part des choses. Il ne faut pas délaisser le Seigneur. Pour que ça se passe bien dans notre travail, il faut d'abord avoir notre relation avec le Seigneur. Notre vie est en haut. Je reprends toujours Colossiens, j'ai bien qu'il ait mis l'affiche juste en face, comme ça on ne la loupe pas, pour moi en tout cas. Il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Et moi je me disais, ouais, mais je suis investi dans mon travail, alors Seigneur, tu comprends, viens m'aider dans mon travail. Ouais, je priais pour mon travail. Et de telle sorte à ce que je puisse vivre des choses et puis que ça avance. Ça, c'est bien. Mais c'était au détriment de ma relation avec le Seigneur. Alors, je ne vous dis pas de lâcher votre boulot, hein, attention, hein, c'est pas ça. Hein. Je vous dis seulement, ne lâchez pas la main du Seigneur. Moi, je l'ai lâché à cause de mon travail, je vous dis, à force, au bout d'un moment, c'était devenu vraiment ma préoccupation première. Alors que la préoccupation première, c'est de vivre avec Jésus. On est bien d'accord avec ça? Et bien, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On chute, on tombe. Et c'est ce qui m'est arrivé à deux reprises. Alors, je ne vous le souhaite pas, mais je vous le dis, faites attention, que ce soit, donc pour moi le faux Dieu c'était le travail, mais il y en a plein d'autres derrière, des préoccupations, des loisirs, des activités qui nous prennent du temps. Alors faites la part des choses et mettez ça devant le Seigneur. Vous les posez devant le Seigneur, et vous, de telle sorte à ce qu'il vous montre qu'est-ce que vous faites de votre temps. Que vous ne vous retrouviez pas comme moi à 60 ans, il y en a qui se disent, moi ça va, j'ai passé les 60 ans, donc tout va bien. Non, je ne sais pas, il y en a qui ont plus de 60 ans ici peut-être. Hein, oh, un petit peu. Bon, mais, en tout cas pour les plus jeunes, hein, que vous ne retrouviez pas arrivé à 60 ou 70 ans ou 80 en disant, mais j'ai peut-être perdu un peu trop de temps. Et jamais trop tard pour bien faire et suivre le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour se dire, waouh, faut mettre le paquet. Bon, je le dis là devant vous, mais parfois, j'ai envie de dire au Seigneur, je pense qu'il faut que tu me battes un peu le derrière parce que je m'endors sur mes lauriers. Au moins, je l'ai dit devant vous comme ça. comme ça, vous pourrez me le répéter de temps en temps. Dis donc, tu ne serais pas en train de t'endormir sur tes lauriers, toi? Te reposer un peu trop? Voilà. Je ne vais pas continuer beaucoup plus loin, mais je pense que vous avez compris. Soyons fidèles et persévérants dans notre marche avec Jésus. Soyons assidus dans tout ce que nous avons à vivre pour Christ, dans quelque domaine que ce soit. Soyons assidus au culte, assidus et impliqués pour nos enfants, pour nos adolescents qui participent à la BE ou à la BA, par exemple. Assidus à la maison de prière, assidus dans notre participation dans les groupes de maison. Et puis assidus aussi, bien évidemment, dans la prière et l'intercession. Et là, quand je vous dis ça, je vous le redis, je parle aussi pour moi avant tout, mais que ça puisse vous parler aussi à vous, d'être assidus, de ne pas se relâcher. Et quand on s'en rend compte, eh bien, qu'il y ait toujours un frère ou une sœur bienveillant qui vienne vous alerter. T'endors pas, mon frère, t'endors pas, ma sœur. Vous vous rappelez ce qu'on a déjà entendu ici de la part d'un frère de Portes Ouvertes Chrétiennes qui nous rapportait ces mots de chrétien persécuté et qui disait, mais vous avez une autre persécution en Europe, en France. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je le redirai encore souvent, parce qu'on est dedans. Cette persécution, c'est l'endormissement. L'adversaire a trouvé le truc pour l'Occident, pour la France, pour nous, c'est de nous endormir. Et moi, je vous dis franchement, ça m'arrive de m'endormir. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à l'endormissement. On peut se laisser endormir par le monde qui nous entoure, par nos loisirs, par l'oisiveté, par tout un tas de choses, on se laisse endormir, tout en nous faisant croire, t'es pas si mal que ça, regarde, cool, prends ton temps, attends, ça va se faire tout seul. Ça, c'est l'endormissement, c'est l'adversaire qui parle. Donc soyez vigilants, regardez au temps que vous passez avec le Seigneur et un temps de qualité. Et plus on passe du temps de qualité avec le Seigneur, plus les choses avancent et plus on marche avec le Seigneur sur le bon chemin. Amen. Allez, on va terminer par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous instruit jour après jour. Merci pour cette Bible tellement importante, que nous puissions l'ouvrir et la lire et nous laisser instruire par ta parole, qu'elle résonne en nous, que certains passages soient vraiment marqués dans nos cœurs et nous aident à vivre. Viens dans notre vie pour nous montrer ce qui bloque, ce qui prend trop de place et qui nous empêche d'avancer avec toi. Viens nous aider à détacher les chaînes et les boulets que nous avons aux pieds. Aide-nous à pouvoir non seulement marcher avec toi sur le bon chemin, mais à courir sans nous essouffler sur le bon chemin. Merci Seigneur de visiter par ton Saint-Esprit chaque personne ici, Seigneur, afin que tu leur montres dans leur cœur, dans leur vie, ce qu'il y a à faire évoluer, avec toute la douceur que tu sais avoir pour chacun d'entre nous, avec tout ton amour. Viens nous guider, nous instruire, nous rénover, j'ai envie de dire. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis dans nos cœurs maintenant. Louange et gloire à toi Seigneur, parce que tu mérites tout Seigneur. C'est tellement important de vivre avec toi, pour toi. Amen.